Mon prêche aujourd'hui, je l'ai nommé « Marcher en pleine conscience ». Marcher en pleine conscience. J'espère qu'on va voir mon vidéo proche tout à l'heure. Enfin, pas mon PowerPoint, pardon, tout à l'heure. Parce qu'il y a pas mal de lectures que je voudrais faire ce matin. C'est une exhortation. Je voudrais vraiment vous exhorter ce matin parce que quand on se tourne un peu dans tous les sens, quand on regarde un peu le monde, comment ça réagit, etc., comment, dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, vous prenez l'écologie, vous prenez la politique, vous prenez le travail, vous prenez tout. Si vous regardez les infos, de toute façon, vous avez un plombage constant, vous avez des chaussures de plomb et vous pouvez faire de la plongée sous-marine sans même être lesté, vous avez déjà les chaussures, d'accord ? Vous pouvez aller au fond direct parce que les infos sont là pour vous enfoncer. D'accord ? Et c'est vrai que quand on regarde comme ça, on tourne la tête dans tous les sens, et même la semaine dernière, et c'est un petit peu le sujet de ma prédication aujourd'hui, mais quand Antoine a pris le micro, il a dit, voilà, aujourd'hui, moi, j'ai reçu que l'Église est à trois vitesses. Il y a trois vitesses dans l'Église. Et personne n'a soulevé, personne s'est dit, on aurait pu discuter, on aurait pu faire un débat là-dessus. Mais la Bible nous prévient sur ce point-là. La Bible prévient dans Apocalypse, je ne l'ai pas pris le verset, mais il me semble que c'est dans Apocalypse, la Bible nous dit bien qu'il vaut mieux être soit froid, soit bouillant, parce que si tu es tiède, Dieu te vomira de sa bouche. Donc la Bible nous prévient. Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être une église à trois vitesses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous avez vu, je mets tout de suite le plomb, là. Je sens bien que je suis en train de vous assommer d'un coup, mais vous allez voir, ça va bien se passer, ça va être impeccable, vous allez voir. Mais être à trois vitesses, c'est pas bon. Moi, je préfère avoir quelqu'un de froid devant moi et de congelé et de pouvoir aller le chercher et le ramener dans la chaleur de Dieu. D'accord ? Et si un jour, moi je vous demande, si un jour vous voyez que Fred se refroidit, venez le voir. Et secouez-le un bon coup. D'accord ? En disant, mais Fred, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu deviens ? Il faut absolument là que tu reviennes dans la chaleur de Dieu. Mais on n'a pas le droit d'être tiède. On n'a pas le droit d'être tiède. D'accord ? Donc aujourd'hui, premier constat. Voilà, une petite question. Où est-ce que tu te situes dans le baromètre ? Pourquoi je parle de baromètre ? Parce que si je parle de conscience, vous allez voir que la conscience, c'est un baromètre. Ça va ? Tout le monde sait ce que c'est un baromètre ? Pas mieux qui me dit non. Je vais commencer par une première lecture dans Jean 17, 14 à 19. C'est Jésus qui parle. Il dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. » Je vais mettre mon armure. Voilà, ça va beaucoup mieux. Je reprends verset 16. « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » C'est un passage important parce que déjà d'entrée, il y a une première valeur qu'on doit avoir, c'est qu'on n'est pas du monde. On n'est pas du monde. Et pourquoi j'ai parlé tout à l'heure des infos ? C'est tout simplement parce que si on considère, si on regarde l'ensemble, si on tourne la tête comme des girouettes un petit peu à dire « mais où est-ce que je dois aller ?» parce que tout le monde me dit « faire comme ça », vous avez vu, on vient de donner les préceptes ou les consignes concernant un virus aujourd'hui qui est dans le monde. Et si vous écoutez les infos, eh bien, on vous plombe parce qu'on va vous dire, effectivement, il faut qu'on soit obéissant par rapport à toutes les consignes, mais on a tendance un petit peu à trop faire une fixette sur ce virus. On a un Dieu qui est glorieux, on a un Dieu qui est merveilleux, et on a quand même le privilège, c'est qu'aujourd'hui, on peut se réunir là ce matin. Même si on a un virus qui est arrivé, qui a voulu fermer les églises, et ça les a fermées pendant quelques temps, fermées, je parle des bâtiments, pas de l'église, parce que l'église a toujours été en marche. Et la preuve en est, c'est que d'un confinement, il en sort des belles choses. Regardez ce chant de Nathalie. Et il y a plein d'autres trucs. J'écoute en ce moment pas mal de... Enfin, je regarde plutôt pas mal, et j'écoute d'ailleurs. J'écoute pas mal de vidéos sur YouTube, et je vois le nombre de chants qui ont été créés, des chants merveilleux, des chants qui sont vraiment à la gloire de Dieu. Et ça a été fait pendant le confinement. où vous avez plusieurs musiciens qui sont chacun chez eux, ils se sont tous filmés avec une part de vidéo, ils les ont tous mis dans un cadre et ça a fait des merveilleux chants. Si vous voulez juste une petite adresse, Sébastien Korn, allez voir ce que fait en ce moment La Chapelle au Québec. C'est merveilleux, moi c'est ma playlist et je ne fais qu'écouter ça en ce moment. Les chants sont tellement glorieux, même ils reprennent certains vieux chants, mais c'est merveilleux. Aujourd'hui, on a une conscience qui nous permet de pouvoir toujours garder un axe qui est l'axe vers Dieu, vers notre destinée. Quelle est votre destinée aujourd'hui? Si je prends une définition de la conscience, vous savez que j'aime bien les définitions, c'est une connaissance immédiate de sa propre activité psychique. C'est une connaissance immédiate de son activité psychique. C'est une connaissance immédiate, spontanée, avoir, prendre conscience de quelque chose. Troisième point, faculté ou fait de porter des jugements de valeur sur ses propres actes. Une conscience droite, pure. Avoir sur la conscience quelque chose à se reprocher, une faute ou un poids. C'est une bonne conscience, c'est l'état d'une personne qui estime, souvent à tort, n'avoir rien à se reprocher. C'est curieux qu'on mette une définition comme ça dans le dictionnaire. Une bonne conscience, c'est l'état d'une personne qui estime souvent à tort. Pourquoi il précise souvent à tort? C'est quoi l'état de ta conscience ce matin? Et le dernier point, conscience professionnelle, honnêteté, soin dans son travail. Je vais aborder 4 points tout à l'heure. Et je vais d'abord vous donner un témoignage. Parce que là, le dernier point, c'est la conscience professionnelle, l'honnêteté. Il y a une quinzaine d'années de ça, j'ai été délégué médical et je travaillais dans un gros laboratoire pharmaceutique. Et puis, il s'est avéré que j'avais un collègue, on travaillait en binôme, et que ce binôme qui travaillait avec moi faisait ce qu'on appelle dans notre jargon de la fausse. C'est-à-dire qu'il allait voir les médecins, mais il n'allait pas les voir. Ce qui fait que je travaillais tout seul. Et lui, il était chez lui et il notait des médecins qu'il voyait tous les jours. Et moi, j'étais dans ma bagnole et je faisais mes kilomètres tous les jours. Et je savais pertinemment que lui faisait de la fausse. Jusqu'au jour où ça s'est retombé sur moi, où on m'a convoqué en me disant « Mais c'est quoi ces résultats-là » Et j'étais obligé de lui dire. Dans l'honnêteté, j'étais obligé de dire « Oui ». Alors, je ne l'ai pas dit ouvertement. J'ai dit « Oui, mais bon, moi, je travaille ». Et puis, bon, voilà, ça, c'est parti comme ça. À tel point, c'est que cette situation... J'ai voulu rester droit dans ma foi, droit dans mon honnêteté professionnelle, droit dans mon boulot que je voulais garder à l'époque. Et ça s'est retombé sur moi parce que j'ai fini par être licencié pour faute de résultats. Et moi, j'ai été vu par les syndicats et j'ai dit, oui, mais voilà ce qui s'est passé réellement. Et j'ai vu le directeur national, je me suis attaqué un petit peu plus haut. Et le directeur national m'a attaqué au tribunal pour diffamation. Pour diffamation. Allez, je baisse dans votre estime, je sens que je baisse dans votre estime là. Fred, t'as été attaqué pour diffamation. Ouais, j'ai été attaqué pour diffamation. Et vous savez que quand on vous attaque pour diffamation, c'est vous qui devez prouver que c'est vous qui avez raison. C'est pas l'inverse. D'accord ? Quand on est attaqué au tribunal, le coupable doit dire non, je ne suis pas coupable. Tandis que là, moi, j'ai été accusé à tort et c'est moi qui devais dire que j'avais raison. Enfin, bon, bref, je vous ferai un dessin un autre jour parce que même moi, je ne me suis pas compris là. Et donc, j'ai été accusé. Bon, j'ai eu 1 euro symbolique, mais voilà. Et j'étais droit dans mes bottes. J'avais ma conscience pour moi. Je savais que j'étais dans mon droit. J'avais raison. J'avais dit quelque chose qui était vrai. Et je suis arrivé au tribunal. Et vous savez comment ça se passe, les tribunaux, hein, c'est assez impressionnant. Vous avez les juges avec la robe noire, le truc blanc, là, et machin, et ils sont là, et vous arrivez devant une barre. Et moi, je suis arrivé devant la barre, et on m'a dit, « Monsieur Pouliquen, qu'est-ce que vous avez pour votre défense ?» J'ai dit, « Moi, je suis chrétien et je crois en la Bible. » Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ?« Monsieur Pouliquen, on n'est pas aux États-Unis, là, on ne jure pas sur la Bible. » J'ai dit, « Oui, mais moi, je peux vous dire une chose, c'est que je vous dis la vérité. Ce qui s'est passé, c'est la vérité. » Et qu'aujourd'hui, j'ai une conscience pour moi, j'ai ma foi qui est là, et je peux vous dire que ce que je vous dis, c'est la vérité. J'ai eu ma conscience pour moi, et je suis allé témoigner au tribunal de Lille en disant, voilà, ça c'est ma conscience. Donc c'est pour ça que là, quand on parle de conscience et qu'on prend toutes ces définitions, il faut qu'on puisse faire une introspection. et se dire aujourd'hui, mon état de conscience, il est où? Quel est ton état de conscience aujourd'hui avec Dieu? Quel est ton état de conscience dans ton boulot avec Dieu? Quel est ton état de conscience dans ta famille avec Dieu? Pourquoi je dis avec Dieu à chaque fois? C'est parce qu'on se doit, si vous êtes là, je suppose que c'est parce que vous croyez en un Dieu qui est vivant. Trois amen. Quand je vais la refaire, j'en aurai un petit peu plus, je suis sûr. Je prêche ce matin un Dieu vivant.
Amen.
T'es en retard, Antoine. Je vais aborder mes quatre points. Ça fonctionne toujours pas? Non, vous avez... Ah bon? Ok. Dommage, j'avais mis des petites images sympas. Bon, c'est très bien. C'est pas grave. Ah, vous l'avez. Ben moi, je les vois, pas vous. L'équilibre spirituel est important. La conscience vous permet d'être en équilibre spirituel. La conscience est un outil. Vous savez, j'aime bien bricoler. Et encore hier, j'ai fait du placo, etc. Mais si je prends une vis et que je n'ai pas le tournevis qui me permet de visser cette vis, d'accord, je peux la tourner avec mes doigts, je vais me faire mal aux doigts, je peux prendre un gant, etc. Je vais beaucoup plus galérer à mettre une vis seule avec mes doigts que si je prends le bon outil pour pouvoir visser. Et le pire, c'est que si j'ai une visseuse électrique, ça va encore plus vite. Bon, dans le placo, ça va pas vite, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que la conscience spirituelle, votre conscience est votre outil. Votre conscience, c'est le baromètre qui vous permet de vous lever le matin en disant « Moi, j'ai conscience devant Dieu. » Et donc, c'est pour ça que j'ai mis cette image avec l'équilibre. Et je vais aborder quatre points pour ça. Je vais dire que déjà, ta conscience va te donner la paix. Premier point, la conscience donne la paix. La conscience te donne de l'assurance. Ah, j'ai moins d'amen. Tout à l'heure, j'en ai eu un. J'en ai plus, là. Ta conscience te rend intègre. Et enfin, ta conscience te donne un bon témoignage. Un bon témoignage. Et je vais étayer ces quatre points par quatre passages de la Bible. Et c'est là où vous allez voir que la conscience est un point crucial dans la parole de Dieu. C'est un point crucial dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on va faire une addition ensemble, on va retourner à l'école. Mais vous allez voir que la conscience, si on ne sait pas utiliser ce baromètre-là, eh bien, je ne vais pas dire qu'on est fichu, ce n'est pas ça. C'est qu'on aura une vie qui ne sera pas dans cet équilibre que Dieu nous demande. Parce que Dieu te veut en étant équilibré. Ça va ? On commence par le premier point. J'avais mis une image, il n'y en a qu'une qui l'a. Tu l'as vu, Nathalie ? Vous savez, la conscience, j'en parle souvent dans mes prédications, mais vous avez une conscience, et vous pouvez le voir là-bas, vous avez un petit diable sur l'épaule gauche et un petit ange sur l'épaule droite. Et ça, ça m'a marqué, parce que c'est vrai que quand j'étais enfant, au siècle dernier, vous savez, dans les années 80, vous savez, pour ceux qui n'ont pas connu les années 80, surtout par là-bas, vous n'avez pas connu les années 80 ? Bon, ça va, il y en a qui sont devant moi au niveau de l'anniversaire, et bon... je les laisse courir devant, et eux, ils ont bien connu les années 80. 1 Timothée 1, 18 à 20. C'est Paul qui parle à Timothée. Le commandement, et vous pouvez voir, si quand vous reprenez toutes les épîtres de Paul, en l'occurrence, vous pouvez voir que Paul met un point d'or, un point crucial sur sa conscience. Faites l'expérience. Lisez votre Bible. Non. Quand vous approfondissez votre Bible, faites attention à ce que dit Paul et de la façon dont il dit et les mots qu'il utilise. Et vous pouvez voir que Paul met un accent crucial sur sa conscience. Et c'est un précepte qu'il va donner aux autres. Il le donne aux autres et on va le lire. Donc là, on est dans le premier point. Ta conscience te donne la paix. 1 Timothée 1, 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Waouh, c'est chaud, non? C'est chaud, hein? Moi, je préfère rester dans la première partie de ce passage-là. Parce que vous pouvez voir, si on reprend le verset 19, en gardant la foi et une bonne conscience, en gardant la foi et une bonne conscience, on prêche beaucoup sur la foi ici, et ça fait partie des messages que j'aime donner, la foi. D'accord? Si je vous redonne ma définition de la foi, il y en a qui la connaissent encore. Je l'ai envoyé dernièrement par SMS à quelqu'un, parce qu'il ne savait pas, il n'avait pas compris, donc j'étais obligé de lui écrire. Voilà. Bon, il n'est pas ici dans les rangs, bon, il a un masque bleu, mais bon, voilà. Est-ce qu'il l'a retenu? On ne va pas l'interroger. Mais la foi, c'est croire que c'est quand ce n'est pas pour que ce soit. C'est pas français, hein. Mais c'est bien quand même. La foi, c'est croire que c'est quand ce n'est pas pour que ce soit. C'est croire que c'est quand ce n'est pas pour que ce soit. Et quand on le dit vite, il y a les gens qui vous regardent avec des yeux un peu avec les poissons rouges qui passent. La foi, c'est croire que c'est quand ce n'est pas pour que ce soit. Et en fait, quand on parle de la foi ici dans l'Église, et c'est un très beau point, et c'est un point qui est crucial, puisqu'on se doit d'avoir une foi et d'exercer notre foi, parce que je vous rappelle que la foi est un muscle. La foi est un muscle. Et si vous ne musclez pas votre foi... Et là, dans ce passage-là, Paul nous dit « en gardant la foi et une bonne conscience ». Ça veut dire que la foi sans la conscience... Et là, on pourrait aller loin dans une étude, parce qu'on va parler des œuvres, si vous voulez. Où il y a des gens qui vont vous dire et qui vont venir vous voir en disant « mais moi, je... oui, d'accord, mais même si je ne vais pas à l'église le dimanche, je suis quelqu'un de sympa. Je donne de l'argent aux pauvres, etc. » Et la Bible nous dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Mais pourtant, la foi... Et non, la foi et une bonne conscience. C'est-à-dire que c'est à toi de faire marcher ton thermomètre ou ton baromètre ou tout ce qui finit en être pour que tu puisses savoir quel est l'état aujourd'hui, ton état spirituel, ton état de conscience spirituelle. Ou même sans enlever, même en enlevant le mot spirituel, quel est ton état de conscience? Ça va, je ne vous ai pas perdu? Si vous êtes là ce matin, et je pose la question, mais je ne demande pas de réponse. Hein. Mais pourquoi vous êtes là ce matin? Pourquoi vous venez dans un bâtiment ici alors que vous pourriez très bien rester dans votre lit? Pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui vont vous dire, mais moi, chez moi, Dieu, il est là aussi avec moi. Ouais, bien sûr, Jésus est là. On parle bien d'omnipotence, d'omniprésence, etc. Dieu est partout. Mais l'Église est un point avec un grand E. L'Église avec un grand E est un point tellement crucial pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le corps de l'épouse de Christ. C'est le corps de l'épouse de Christ. Et Dieu veut que le corps de l'épouse de Christ soit rassemblé. Je vise personne. Attention, hein, c'est pas un jugement ou quoi que ce soit. Donc là, la conscience te donne la paix. Donc Paul demande à Timothée de garder sa foi et sa conscience. D'accord? Parce qu'il dit bien que certains ont perdu cette conscience et ils ont chuté. Moi, il y a quelques années, un deuxième témoignage me concernant, j'ai eu l'opportunité de reprendre mes études. J'avais une trentaine d'années, ou 35, je ne sais plus, bref, on s'en fout. Et j'ai repris mes études et c'était une école prestigieuse. Enfin, prestigieuse. C'était vendu prestigieux. Pour ceux qui la connaissent, c'est Schema à Lille. À l'époque, c'était École supérieure de commerce. Et en tant que salarié, j'ai eu l'opportunité de prendre un congé d'études. Donc, je bossais. C'est ce qui a fait aussi que j'ai été viré de ce laboratoire. Bon, bref. Mais j'ai mal pris cette expérience. Pour moi, ça a été quelque chose qui me tirait du fond où j'étais. Parce que c'est vrai que dans ma famille, on n'a pas fait de grandes études. Et le fait de pouvoir arriver à un Master 2, je me suis dit, Fred, tu vas avoir un Master 2. Un bac plus 5. Wow. Et j'ai attrapé le melon. Parce qu'en plus, dans ce style d'école-là, on vous vend une école en disant « Mais oui, mais quand vous allez sortir de là, vous allez être directeur, vous allez être cadre supérieur dans des entreprises, vous allez gagner 10 000 euros par mois. » Vous voyez, tout le toutim. Donc, vous attrapez un melon. Pas possible. Et aujourd'hui, je suis pasteur. Mais voilà, ma conscience a a dû travailler, et c'est vrai que je ne la remercierai jamais assez, mais Pascaline a été tellement ferme dans sa foi et dans sa conscience pour me maintenir à flot. Parce que pendant cette période-là, ma foi chutait. Jusqu'au jour où j'ai touché le fond de la piscine, vous savez, le fond du fond. Et là, on a deux solutions. Votre conscience, elle joue dans le bon ou dans le mauvais sens. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai montré le petit ange, le petit diable. Et il y a le petit diable qui dit, mais de toute façon, Dieu n'existe pas, parce que regarde où t'en es. La conscience vous parle. Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, regarde où t'en es, Fred. Rien. Et puis, il y a votre bonne conscience qui vous dit, mais si, Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu reviennes. Et Dieu veut que tu reviennes. Et là, il y a un moment de repentance, parce que ma bonne conscience a pris le dessus sur ma mauvaise conscience. Et j'ai, vous savez, quand on dit qu'on donne un coup de talon au fond de la piscine, et là, on remonte à la surface. Et c'est là où je suis revenu. Et Dieu a permis des choses tellement glorieuses. Il a fait des choses pour moi dans mon... Je pourrais vous donner un témoignage si vous voulez, mais avec notre couple, Pascaline et moi, où on était dans un état de couple pas très cool. Et Dieu m'a redonné du feu pour lui. Il m'a redonné ce feu. Parce que ma conscience a travaillé, mon baromètre qui disait, mais Fred, t'es pas dans un bon état là. Et j'avais deux choix. Et aujourd'hui, vous avez deux choix. Et aujourd'hui, tu as deux choix. Soit tu laisses ta mauvaise conscience te parler, ou ta bonne conscience te parler. La conscience te donne de l'assurance. Acte 22, au verset 1, Paul... Donc Paul est au tribunal, vous savez, comme quand tout à l'heure je vous disais, j'étais au tribunal, et Paul a fait exactement la même chose. Donc je suis fier, j'ai fait un peu comme Paul, d'accord ? J'étais un Paul bis, ou un Paul ter, puisqu'on a déjà Paul bis. Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, alors Sanhédrin, vous savez, c'est le grand conseil, leur dit, homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Paul, il est là devant le Sanhédrin, qui sont quand même des grands pontes spirituels et de justice, et il les regarde droit dans les yeux en leur disant « Homme, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Paul était revêtu d'une assurance que sa conscience lui a donnée. Et il a pu être droit dans ses bottes. Vous savez cette expression, être droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'il était là, ferme, comme moi je l'ai été devant ce tribunal en disant, moi, ma foi vous dit que je vous dis la vérité. Et qu'aujourd'hui, ma conscience, elle est pour moi. Quand j'ai témoigné qu'en disant, mon travail, je l'ai fait consciemment, aujourd'hui, s'il dit que j'ai menti, eh bien non, c'est pas vrai, parce que moi, ma conscience parle pour moi. J'ai fait la même chose que Paul. Je dis pas ça pour me gargariser, attention, hein. Je ne suis pas là pour me mettre en avant, mais c'est simplement pour vous dire que la conscience peut vous donner de l'assurance, elle va vous donner de l'assurance, si votre conscience est bonne. Vous savez quoi ? Cet homme qui m'a attaqué au tribunal, je l'ai revu il y a 2 ans ou 3 ans. Et là encore, ma conscience a dû travailler. Parce que, croyez-moi, j'avais envie d'aller lui mettre un coup de boule. Ouais. Il était un peu pétochard et il m'a vu. Et j'ai bien senti dans son regard qu'il me fuyait. Et j'avais qu'une envie, c'était d'aller le voir, et puis lui coller une droite, quoi. Mais ma conscience a dit, mais non, Fred, tu peux pas faire ça. Enfin, ça fait plus que 2 ans, ça fait 3, 4 ans, 5 ans peut-être, maintenant que je l'ai revu. Et ma conscience, là encore, a travaillé. Elle m'a donné de la paix, ma conscience m'a donné de l'assurance. Je suis pas allé le voir. Après, j'ai regretté en allant le voir, en disant, voilà, on peut parler. Si j'ai l'occasion un jour de le revoir, peut-être que je lui dirai. Ta conscience te rend intègre. Le troisième point, je ne vais pas être trop long, j'arrête là maintenant. Car notre prédication, 1 Thessaloniciens 2, 3 à 7. Donc 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, les versets 3 à 7. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile. Ainsi, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Tout à l'heure, quand j'ai commencé, je vous ai dit je vais aller à l'encontre de mon prêche, parce que, en fait, ce passage-là nous dit qu'on ne doit mettre personne en avant. Parce qu'on n'est pas là pour avoir des applaudissements. On n'est pas là pour dire oh, « toi, tu es un merveilleux pasteur ». Et venez pas me voir derrière pour me dire « Fred, ta prédication était comme ça ». Non, moi, ce que j'ai envie que vous me disiez, c'est « Fred, ta prédication, tel point ou tel point, ça m'a touché parce que j'attendais cette réponse-là ». Et c'est là où, tout à l'heure, quand j'ai mis Nathalie en avant, c'est tout simplement parce que je vois le talent qui est en Nathalie. Et c'est le talent de Nathalie que j'ai voulu mettre en avant, ce n'est pas Nathalie. D'accord ? Et c'est quelque chose qui est précisé ici. C'est-à-dire que notre conscience va nous rendre intègres. On n'est pas là pour s'enorgueillir. On n'est pas là pour avoir un classement du meilleur pasteur de France, ou du meilleur chrétien, ou du meilleur fidèle de l'Église de France, ou n'importe quoi. On est là tout simplement pour servir Dieu, parce qu'on a un Dieu vivant. C'est bien, vous avez réussi. Et vous avez senti le piège ? Il y avait un piège là. C'est bien, vous n'êtes pas tombé dedans. Je la referai, hein. Soyez attentifs. C'est là où je vois que vous dormez ou pas. Le verset 5 dit « Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. » Oh, elle est bonne celle-là. « Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. » Non, ça, je suis seul à me faire rire. « Dieu en est témoin. » Il me rend intègre. Dieu est témoin que j'utilise la parole de Dieu pour vous parler ce matin et pour me parler ce matin. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, elle est là pour être utilisée. Parce que, et on va faire une addition, je vais pas aller faire, je continue juste parce que là je suis en train de partir vers ma conclusion. Nous n'avons, verset 6, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Merveilleux ce passage, 1 Thessaloniciens, retenez-le. Et lisez le chapitre 1, il est merveilleux le chapitre 1. J'aime le 1 Thessaloniciens. Je termine avec la conscience, c'est le quatrième point. Ta conscience te donne un bon témoignage. Ta conscience te donne un bon témoignage. 1 Timothée 1, 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon tes prophéties à ton sujet, c'est le même passage que tout à l'heure, d'accord ? C'est que tu gardes ta foi et une bonne conscience. Pourquoi ? Parce que Paul l'a dit devant le Sanhédrin. Là, il le donne, c'est un principe qu'il donne à Timothée en disant « Garde un bon témoignage. » Si tu as bonne conscience devant Dieu, et même pour toi, si ta conscience travaille pour toi, eh bien, sache que tu apporteras un bon témoignage et que tous les gens que tu pourras voir, eh bien, tu verras que tu les toucheras, pas forcément par des paroles, mais aussi par tes actes. On a un témoignage, et je vais bientôt, là, je n'arrête pas de le dire, mais j'ai tellement de choses à dire, c'est tellement important ce sujet de la conscience. Dimanche dernier, avec Pascaline, on était invité à une fête. Bon, c'est pour ça qu'on est parti rapidos. Et on a rencontré une femme qu'on connaît, qui est une femme qui avait tout pour elle, jolie femme, avec une belle profession, etc. Voilà, enfin tout. Et là, on l'a vue complètement affaiblie et elle est en phase terminale de cancer. Elle fait une récidive d'un cancer et là, il lui donne combien ? 3 mois ? Je crois que c'est 3 mois qu'il lui donne. Et Pascaline, sa conscience a travaillé. Moi, j'étais dans la piscine. Et Pascaline est allée la voir en disant « Écoute, Nathalie, je ne peux pas te laisser partir sans te dire ce que j'ai moi dans mon cœur. » Et donc, on est allé, enfin, elles sont allées dans la chambre des gens où on était et elles ont parlé. Puis à un moment, j'ai dû sortir de la piscine. J'étais bien dedans pourtant. Mais... Et j'ai dû aller là-bas et en disant « Voilà, aujourd'hui, sache que deux solutions se dressent devant toi. La première, je prie pour toi, tu es guéri. Alléluia. La deuxième, le cancer a le dessus, tu pars. Où tu pars ? » Et j'ai été très cash. On a été très cash avec Pascaline. Pascaline a prié pour elle après. On a laissé nos numéros de téléphone ou son numéro de téléphone. En attendant qu'elle nous rappelle, je pense que Pascaline, tu es peut-être là, je ne sais pas la recontacter, mais voilà, nous, on a fait notre devoir et notre conscience est juste. C'est-à-dire que Pascaline a dit, mais je ne peux pas la laisser partir à apprendre la semaine prochaine qu'elle est décédée, que le cancer a eu le dessus. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et donc, notre conscience a été le baromètre en disant, voilà, chaud, froid, vous savez comme les enfants, ils font, ouais, tu brûles, on cherche un truc, ouais, tu brûles, non, t'es froid, tu brûles. Là, notre baromètre a dit, non, si tu veux être bouillant, il faut que tu lui dises ce que tu as dans le cœur. Je termine, on va faire une addition ensemble. Bon, vous ne la verrez pas, mais elle est à l'écran. Vous savez, quand on fait 0 plus 0 égale la theta toto, on a la même chose. J'ai mis des petits plus avec un, vous savez, la barre, comme on dit à l'école. Hein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on met la parole de Dieu en premier dans notre vie, d'accord ? Si la parole de Dieu est accompagnée de notre foi, deuxième point. Et si le troisième point, par rapport à cette, pas équation, parce que ce n'est pas une équation, mais si on met notre conscience dans la parole de Dieu, la foi et notre conscience, eh bien c'est là où on aura une vie équilibrée, spirituelle, et une vie spirituelle puissante. Puissante. Gardez bien cette équation en tête. La parole de Dieu plus la foi plus la conscience fait de vous des hommes et des femmes puissants pour Dieu. Est-ce que vous avez envie de ça ? Est-ce que vous avez envie de ça ? Tout à l'heure, je vous parlais de Sébastien Korn, et il y a un chant qui est merveilleux de lui. J'arrête pas de l'écouter, j'en boucle. Et ce chant, il s'appelle Consécration. Et le refrain dit « Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué, fais ce que tu veux. » Je le refais. « Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué, fais ce que tu veux. » Écoutez-le, ce chant, vous verrez. Il s'appelle Consécration. C'est sur la chaîne de la Chapelle au Québec. On va se lever, on va prier.